que nous accueillons tous les êtres de lumière qui travaillent déjà ici avec nous ce soir et tous ceux qui se joindront à nous. Et c'est dans cet accueil que nous recevons le chariot blanc, ce véhicule de supraconscience qui vient ainsi nous refléter cet état de conscience dans lequel nous sommes également.
Bienvenue à vous-même, André.
Merci. Alors ce soir, le thème de cette conférence est la dualité, une nécessité.
C'est une question?
Peut-être, oui.
Alors tant mieux si c'est une question. Elle vous sera favorable. Nous allons d'abord débuter par un commentaire d'ouverture. Tâchez de vous y amuser un peu afin de ne pas mourir dans votre dualité. Un jour, sur une petite planète très éloignée de la planète Terre, il y avait des âmes qui étaient là en évolution. Mais le rythme de leur évolution leur apparaissait très lent, de sorte qu'ils s'étaient ligués ensemble et s'étaient dit « Nous allons demander au maître de la planète s'il pourrait nous permettre d'aller ailleurs, puisque l'une de ces âmes, ayant la capacité de lire vibratoirement, avait raconté à ses amis qu'il y avait une petite planète très éloignée de la leur, qui s'appelait la planète Terre, et où les gens avaient l'opportunité, dans les temps présents, d'évoluer rapidement. Et de plus, semblait-il, qu'ils avaient une clé pour arriver à créer leur corps de lumière et leur corps d'ascension qui leur permettrait de se déplacer dans tous les plans et tout le cosmos. Un jour, trois des plus braves se présentèrent devant le maître, alors que tous les autres étaient branchés directement sur leur écouteur pour savoir ce qui serait dit. Alors ils se présentèrent et ils dirent, « Est-ce qu'il y aurait possibilité pour nous d'aller sur la planète Terre ?»« Ah, dit le maître, la planète Terre vous intéresse ?»« Oui, dit l'un d'entre eux, j'ai lu dans la vibration que les gens de cette planète avaient une opportunité qu'il n'y avait pas dans d'autres planètes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ?»« Certainement, dit le maître. Et si vous le désirez, je ferai même des démarches pour que vous puissiez avoir vos passeports. » Alors ils étaient joyeux. Ils se faisaient des clins d'œil et se poussaient du coude. Ils avaient déjà le goût de partir. Alors le maître leur dit, « La planète Terre, c'est un lieu très particulier dans le cosmos. C'est un lieu considéré comme une université. Alors ceux qui vont là ne peuvent pas faire la paresse, sans quoi ils ne peuvent pas évoluer rapidement. Pour descendre, il faut un passeport. Et le passeport, c'est le libre arbitre. Mais le libre arbitre peut être à la fois la clé de la transcendance et aussi être à la fois le piège des pièges. Expliquez-nous, dirent ces trois petites âmes qui écoutaient avec tellement d'attention. Alors le maître leur dit, lorsque les âmes descendent sur le plan terrestre, elles oublient, elles perdent la mémoire, parce qu'elles descendent dans une densité presque inexplicable. Cette densité est lourde à supporter, et c'est cela qui fait taire la mémoire. Et lorsqu'ils arrivent dans ce plan de troisième dimension, c'est comme s'ils voyaient tout en double. C'est comme s'ils voyaient tout divisé. Et leur regard, qui est un regard divisé, les amène dans une notion de dualité et de polarité. Alors qu'advient-il, dirent les trois petites âmes, qui commençaient à s'inquiéter un peu. Alors, dit le maître, lorsqu'ils arrivent, ils divisent l'énergie de leur libre arbitre. soit que quelque part ils nient leur libre arbitre, ou que d'autre part ils en fassent un dieu, c'est-à-dire qu'ils deviennent orgueilleux de cette énergie. Alors à ce moment-là, ils se placent dans l'énergie de pouvoir. Ceux qui sont dans cette énergie de désir, par rapport à ceux qui sont dans cette énergie de négation, il y a des ressemblances. Celui, par exemple, qui est dans la négation, n'accepte pas qu'il a un corps physique. Il ne le trouve jamais assez parfait, ni assez jeune, ni assez beau, ni assez attirant. Il n'accepte pas toujours non plus son corps émotionnel. Il se bat contre ses émotions, contre sa peine et sa colère et sa peur et son angoisse et son incertitude. Et alors il est envahi par le doute, il est envahi par la culpabilité et il tourne en rond. Il a l'impression d'être dans l'enfer alors qu'il pourrait être dans le ciel. À ce moment-là, il donne son pouvoir. Il cherche à l'extérieur de lui quelqu'un qui va le reconnaître, l'apprécier, l'aimer, lui dire qu'il est bon, le flatter. Et enfin, il ne trouve jamais réponse définitive. Celui qui se place du côté du désir, lui, il a une attitude un peu différente. Il cherche à avoir le pouvoir sur tout ce qu'il peut, le pouvoir sur les autres, pouvoir sur l'argent, pouvoir sur la forme physique, pouvoir sur le mental, pouvoir sur les écritures, pouvoir sur tout. Et alors il se retrouve dans d'autres énergies et d'autres émotions qui sont souvent les émotions connexes du pouvoir et qui se transforment en colère ou en haine ou en dérision ou en mépris. Et alors il cherche aussi dans la personne opposée ou la dualité opposée, comment il pourrait se soulager de sa propre souffrance. Mais voici qu'à un moment donné, lorsque ces êtres s'éveillent à la conscience, quelque chose d'intéressant se passe. Les trois petites âmes firent un grand soupir en se disant, peut-être que ce sera un peu plus intéressant, mais chacun dans leur tête, ils avaient bien décidé de ne pas demander de passeport. Cependant, le maître continua et il dit, lorsque l'être humain commence à s'éveiller à la conscience, il s'aperçoit que ces dualités sont un trésor. Mais tant qu'il n'a pas compris que c'est un trésor, alors il se bat contre la dualité et la dualité se bat contre lui. Alors dit l'une des petites âmes, que faut-il faire pour être capable de s'éveiller à la conscience et de comprendre pour les polarités? Alors le maître dit, s'éveiller. Dans un premier temps, s'éveiller à soi-même, s'éveiller à sa propre vibration. Et lorsque quelqu'un s'éveille à sa propre vibration, quelque part, il développe en lui le discernement. Et lorsqu'il développe le discernement, il a des yeux nouveaux, des yeux qui sont moins dualisés. Alors il commence à comprendre que la dualité interpelle la dualité. Ce qui est la peine interpelle de l'autre côté ce qui est la joie. Et alors, lorsque la joie et la peine arrivent à s'interpeller suffisamment pour être capables de s'unifier dans le cœur, alors l'alchimiste là commence à faire son travail. Et cela produit que la personne transcende cette énergie. Que veut dire transcender, dit l'une des petites âmes. Transcender ne veut pas dire se placer au-dessus. Transcender ne veut pas dire nier. Transcender veut dire retrouver la mémoire et savoir que deux énergies qui se fondent ensemble, qui ont l'air d'être des énergies opposées, un peu comme dans les laboratoires des chimistes, et qu'elles s'unissent ensemble pour se reconnaître au lieu de se rejeter, alors elles se dissoudent et créent une autre vibration. Cette vibration, alors, descend dans tout le système cellulaire et les cellules qui sont intelligentes, puisqu'elles ont des cerveaux, apprennent la leçon nouvelle. Et progressivement, elles commencent à saisir qu'elles sont de l'autre côté d'un miroir et que quelque part, la dualité n'a jamais existé. Elle n'a jamais existé ailleurs que dans la troisième dimension et dans la pensée dualisée. Alors progressivement, ces âmes qui sont sur le plan terrestre commencent à comprendre et à rechercher ces énergies pour pouvoir les unifier au lieu de se battre avec. Et alors ces êtres deviennent des alchimistes et créent leur corps de lumière. Et ensuite, ils sont promus à l'ascension. Alors, dit l'une des petites âmes, il y a avantage à aller dans la dualité, à aller dans ces plans de noirceur et d'obscurité. Il y a avantage en toute expérimentation, répondit le maître. Et ceux qui acceptent d'aller dans les profondeurs dualisées de la conscience, quelque part peuvent évoluer plus rapidement. Et sachez bien que je ferai tout mon possible pour vous trouver des passeports si vous en voulez. Mais il y a des êtres de plusieurs planètes qui voudraient profiter des temps présents pour aller sur le plan terrestre. Nous étions les trois premiers demandeurs, dirent les petites âmes qui étaient en train de se solidifier. Vous étiez les trois premiers demandeurs sur cette planète, dit le maître, mais il y a des milliards de planètes et beaucoup veulent aller à l'université dense de la Terre parce que quelque part, ils savent que c'est un tremplin pour la supraconscience. Et la légende dit que ces petites âmes sont ici parmi vous ce soir. Et c'est le commentaire que nous avions pour vous. Et maintenant, nous serions prêts pour vos questions.
Comme première question, vous en avez déjà comme parlé, mais est-ce que vous avez d'autres commentaires par rapport à pouvez-vous nous expliquer le début de la dualité?
Nous vous dirons, et cela vous surprendra, que le début de la dualité est en Dieu. Dieu, quelque part, dans son origine de la divinité, a voulu dans son expire créer un monde, créer des univers, remplir le vide du cosmos. Et quelque part, il a projeté sa création hors de lui. Et cette création est devenue intelligente. Et parce qu'elle était intelligente, elle avait le pouvoir de s'auto-guider. Elle avait le pouvoir de s'auto-gérer. Elle avait même le pouvoir de s'opposer à Dieu qui était son miroir. Et alors cette création a dit à Dieu, « Moi, je voudrais partir et expérimenter tout ce que je veux expérimenter, comme l'enfant prodigue qui demandait son héritage. » Qu'a fait le Père? Il lui a dit, « Tu es mon fils, je te vénère et je t'aime. Je te respecte dans ton désir d'expérimenter. » Et il prit tout l'héritage et il le remit à ce fils qui s'éloigna du Père, qui vécut des milliers d'expériences, mais qui se retrouva quelque part dans l'obscurité de ses propres profondeurs. Et lorsqu'il toucha cette profondeur en lui, la profondeur de l'ignorance, la profondeur de l'inconscience, la profondeur de l'oubli, alors il sut quelque part qu'il avait eu un père, et il sut que la mémoire lui revenait au-dedans de lui, et qu'il retrouverait le chemin vers le père. C'est exactement ce que vous êtes en train de faire dans ce chemin dualisé. Vous avez pris votre héritage, c'est-à-dire que vous avez habité cette création, et que cette création a voulu par elle-même expérimenter la densité. Si vous entendez la cassette de l'énergie de la déesse, vous comprendrez davantage réponse à cette question où nous avons détaillé un peu plus, quoique ceci nous prendrait bien quelques millions d'années pour arriver à tout vous expliquer ceci, mais nous avons détaillé davantage le grand moment du combat lorsque la dualité s'est installée.
Merci. Alors, la prochaine question, comment puis-je acquérir la maîtrise? quand je suis dans la dualité. Si en faisant un pas en avant, elle me fait faire un demi-pas en arrière.
Alors vous avez fait un demi-pas en avant de façon irréversible. Nous apprécions votre question. Elle nous oblige quelque part à vous donner davantage de détails. Alors vous dites, comment puis-je développer la conscience et le discernement et l'éveil si je suis dans ce monde dualisé? Mais c'est ce monde dualisé qui vous provoque en duel d'une certaine façon pour que vous puissiez arriver à vous réveiller. Ce monde dualisé, ce monde de densité, ce monde de troisième dimension est, nous dirions, la couche la plus profonde du monde de l'inconscience. Et il faut accepter d'aller jusque dans les racines de cette inconscience pour être capable d'amener toute cette réalité à la conscience. Alors, lorsque vous dites que vous faites un pas en avant et un demi-pas en arrière, vous avez une impression de faire un demi-pas. Mais sachez bien que ce demi-pas était déjà un pas de géant en lui-même. Chaque fois que vous accueillez la dualité ou l'émotion, parce que l'émotion est liée directement au corps de dualité, et cette émotion, nous vous dirons, elle a aussi ses vibrations dans le corps physique qui lui aussi, à son tour, manifeste la dualité, c'est-à-dire qu'il vous donnera des difficultés à vous bouger, à avancer, à respirer, à digérer, enfin tout le corps physique a son langage, qui est un langage qui répond au corps émotionnel. Et le corps émotionnel est souvent sujet aux interprétations du mental et aux structures du mental. Alors, la vibration de ces trois corps, c'est le grand cadeau qui vous est donné pour être capable de sortir des profondeurs. Ces trois corps ont un langage très, nous dirons, lumineux, si vous savez l'entendre, parce qu'ils vous enseigneront qu'une dualité interpelle toujours son opposé. Et que quand ces deux opposés peuvent arriver à se fusionner dans le cœur de l'alchimiste que vous êtes, quelque part vous venez de franchir une étape. Mais peut-être direz-vous, moi, il y a 5 ans que je travaille sur la même émotion, l'émotion de colère que je voudrais libérer, mais quelque part j'ai encore de la colère. Pourquoi vous étonneriez-vous de n'avoir pas pu libérer la colère de milliards de vies dans 5 ans. Acceptez que quelque part les choses se font de façon graduée et que lorsque vous vous libérez d'une couche de colère, vous libérez aussi la colère de la terre, vous libérez aussi une partie de la colère de cette grande inconscient collectif. Alors, à ce moment-là, vous ne faites pas de pas de recul. Vous avancez beaucoup plus rapidement que vous ne le croyez.
Je demande à Dieu de m'aimer, excusez-moi, je demande à Dieu de m'aider à aimer inconditionnellement. Parfois, je me sens si bien intérieurement que je dis que même que ça rit en dedans. Parfois, je reconnais en moi de l'agressivité, soit face à des personnes ou encore des situations. L'agressivité et l'amour ne vont pas de pair. Comment y arriver à cet amour inconditionnel?
Alors là, enlevez le jugement que vous venez de poser en disant que ceci ne va pas de pair. S'il y a le rire en vous, qu'est-ce que le rire appelle? Il appelle les larmes. Et ce sont les larmes et le rire qui, fondus, dissous ensemble dans le chakra du cœur, dans ce que André appelait tout à l'heure le point zéro. C'est-à-dire le lieu où rien n'est valorisé, où rien n'est comparé, où rien n'est supérieur à quoi que ce soit, mais où tout est dans le « je suis », dans l'énergie du « je suis ». Alors, lorsque vous jugez la peine, ou que vous jugez l'agressivité, ou que vous jugez la colère, c'est que quelque part, vous n'avez pas entendu que la colère interpellait la paix, que l'agressivité interpellait une sorte, nous dirons, de calme ou de, nous dirons, de sérénité à l'intérieur de vous. Alors, lorsque vous vivez une émotion, allez voir ce que cette émotion interpelle dans la dualité pour arriver à fondre ensemble, à accueillir, à intégrer dans l'unité de votre être, puisque rien n'est mauvais en dehors de votre pensée qui rend les choses mauvaises. Alors, intégrez ceci à l'intérieur de vous, laissez-le se dissoudre et vivez le « je suis ». Si vous êtes dans la peine, vivez le « je suis » avec l'énergie de la peine qui vient interpeller l'énergie de la joie. Si vous êtes dans la joie, ne vous attachez pas non plus à la joie et sachez que cette joie interpelle la peine pour pouvoir se fusionner avec elle, faire la noce et devenir un.
Comment trouver la paix intérieure quand il y a dualité entre l'âme et l'ego?
Ce cher ego, nous vous dirons l'ego est beaucoup jugé, l'ego est beaucoup condamné. Et pourtant, vous savez, c'est lui qui, quelque part, cherche sa propre transcendance. L'ego lui-même, lorsque vous le touchez à l'intérieur de vous, interpelle un autre ego, c'est-à-dire ce que nous pourrions appeler l'être complété dans son individualité à la fois humaine et spirituelle. Et alors, lorsque cette unité est faite dans l'être, cette énergie de l'ego qui vous a tant piégé quelque part parce qu'il était inconfortable dans la dualité devient tout à fait une autre énergie. Alors, lorsque vous êtes en conflit et que vous reconnaissez l'ego, accueillez cet ego et demandez-lui qu'il vous signifie quelle est l'émotion qui a besoin d'être libérée. Si vous le considérez comme un serviteur, il vous servira. Si vous le considérez comme un ennemi, alors il vous attaquera. Si vous le considérez comme quelqu'un avec qui vous êtes en duel, il vous montrera votre force et votre puissance, parce que quelque part, il ne sera pas un ennemi. Il sera celui qui vient vous confronter à votre propre puissance et à votre propre force. Et alors, ceci vous permettra d'accueillir cet ego pour que lui aussi puisse accéder à la transcendance. Ne jugez pas l'ego. Reconnaissez-le, parlez avec lui, dites-lui que vous reconnaissez tous ses tours de piste et quelque part dites-lui que vous le reconnaissez même lorsqu'il ose mettre le masque de l'ego pour ne pas être reconnu. Car souvent, lorsque vous dites « c'est mon ego qui me fait faire cela », c'est l'ego qui parle à travers vous. Il se masque en ego en se disant « là, on ne saura pas qui je suis ». C'est subtil, n'est-ce pas?
Mais est-ce qu'il y a vraiment cette dualité entre l'âme et l'ego?
Nous vous dirons avec l'âme inférieure, oui, il y a dualité, mais pas avec l'âme supérieure. L'âme supérieure, elle contemple le spectacle. Elle ne le juge pas. Elle contemple, elle est patiente, elle attend, elle interpelle, elle fait des signes, elle donne... Nous dirons, elle se manifeste à travers les circonstances, à travers les personnes, à travers le son, le souffle et la lumière. Elle se manifeste quelque part. Et lorsque l'âme inférieure est capable de la reconnaître, l'âme inférieure aussi est attirée vers le haut, c'est-à-dire attirée vers l'âme supérieure. Mais l'âme supérieure ne juge pas et n'est pas en conflit avec l'ego.
Pourquoi sommes-nous soumis à la dualité? Est-ce que ce serait à cause d'un implant que nous vivons ceci? Et si tel est le cas, pouvons-nous nous en libérer et comment?
Nous vous dirons, bien sûr, il y a eu des implants sur Terre, mais vous ne devez pas faire la dramatique à partir de ceci, ni secondement utiliser le fait qu'il y a eu des implants pour vous excuser quelque part de vos comportements ou de vos choix. Vous êtes dans un monde dualisé parce que vous avez fait le choix de venir dans le monde dualisé et d'expérimenter le libre arbitre. C'est-à-dire que le libre arbitre, qui est une force qui peut être divisée dans ce monde de troisième dimension, comme nous l'avons dit précédemment, quelque part, lorsque ces dimensions, lorsque ces dualités sont unifiées et deviennent une dans le cœur de l'être, alors le libre arbitre devient, nous dirons, le lieu de l'éveil, le lieu de, nous dirons, de la mémoire qui se retrouve. Alors ce libre arbitre devient, nous dirons, une merveille et une clé. Et vous avez accepté vous-même de venir dans ce monde dualisé parce que quelque part vous saviez que vous alliez toucher dans les profondeurs des enfers pour être capable de créer le corps de résurrection. Et nous vous dirons, il y a beaucoup d'êtres qui sont dans d'autres planètes ou dans des plans que nous appellerons les plans de l'astral, qui voudraient bien revenir dans les temps présents sur la planète Terre pour être capable d'évoluer aussi rapidement que vous évoluez depuis 1972.
Est-ce vraiment l'archange Gabriel qui a transmis le Coran à Mahomet? Si oui, comment expliquer le point de vue un peu dictateur de ce prophète?
Du prophète Mahomet?
Oui.
Nous vous dirons, tous les prophètes quelque part, ou tous les êtres que vous pouvez considérer des êtres évolués, qui sont venus sur le plan terrestre, avec aussi des limitations. Si vous allez voir ceux que vous appelez les gourous, par exemple, ou les maîtres, et que vous avez occasion de vivre journellement avec eux, vous verrez que quelquefois, ils ont des sautes d'humeur. Vous verrez que quelquefois, ils sont autoritaires. Vous verrez que quelquefois, ils ont même un langage qui parle ex cathedra. Mais il faut vous détacher de la personnalité de ces êtres incarnés, même s'ils sont des véhicules de grande lumière et qu'ils sont des prophètes. Tous les prophètes, que vous preniez Abraham ou Moïse ou Jacob ou peu importe Élie, nous vous dirons, tous ces prophètes ont eu des formes de limitation et des lieux d'apprentissage. Vous avez raison, cependant, lorsque vous dites que ce prophète avait, nous dirons, nous ne dirons pas une énergie de dictature, mais quelque part une énergie de très grande autorité. Et sachez bien qu'il travaillait beaucoup avec l'énergie du premier rayon et que l'énergie du premier rayon était nécessaire sur le plan terrestre à ce moment-là et que ceci était une nécessité créée par les âmes qui ont attiré cette vibration.
Est-ce possible de confirmer si c'est Gabriel?
Nous vous dirons que oui.
Voilà. Alors la prochaine
Gabriel question... Gabriel a une fonction d'annonciateur.
Merci. Alors, est-ce que la dualité fait partie de nos karmas? Et si tel est le cas, que pensez-vous de l'implant neutre qui éliminerait tous les karmas tels qu'enseignés par Crillon dans la graduation des temps?
Nous vous dirons que ce médium qui vous donne cet enseignement et qui vous dit quelque part de vous mettre au point neutre ou au point zéro, ce qu'il vous enseigne est ce que nous vous enseignons ce soir. C'est-à-dire que vous ayez à aller chercher les polarités ou les émotions et à les amener dans le chakra du cœur pour être capable de leur faire vivre, nous dirons, cette énergie de transmutation. Parce que lorsque vous arrivez dans cet état, alors vous n'êtes plus touché par rien. C'est-à-dire que vous ne vous attachez à rien. Ce qui fait la dualité, c'est la tâche. Ce n'est pas de vivre la joie qui quelque part vous met dans le monde dualisé. Ce n'est pas de vivre la peine qui vous met dans le monde dualisé. C'est de vous attacher à la joie ou de vous attacher à la peine. Alors si vous ne vous attachez pas, quelque part vous allez devenir spectateur de cette réalité et vous n'allez pas perdre contact avec le centre de vous-même qui deviendra inébranlable et nous dirons qui ne sera pas dans l'énergie ni du rejet de vous-même, ni du désir de vouloir recréer à nouveau la situation. Alors, ce point neutre, ainsi que le dit Crayon, ou Crayon, ainsi que vous l'avez dit, qui est un médium de langue anglaise, nous vous dirons, il vous tient exactement les mêmes propos que nous tenons ce soir. Et sachez bien que lorsque vous parlez de karma, la loi du karma est une loi qui est liée au monde de la dualité. Alors, si vous vous libérez de cette dualité ou que vous l'accueillez et la transcendez, quelque part, vous n'aurez plus besoin des aspects karmiques. Vous n'aurez plus besoin de revenir sur le plan terrestre pour vivre la souffrance ou la douleur ou la mort. Alors, vous serez complètement libéré de tout aspect karmique ayant créé votre corps de lumière.
J'aimerais que vous me parliez du temps et de l'espace par rapport à la dualité.
Nous vous dirons le temps s'il est linéaire et que vous le calculez en présent, passé, futur, quelque part vous maintient dans la dualité ou nourrit la dualité. Nous donnons un exemple. Imaginez qu'un jour vous êtes allé pour une recherche d'emploi et que le patron qui vous a reçu vous a dit que vous étiez un imbécile et qu'il ne voulait pas avoir des gens comme vous dans son industrie et que quelque part il ne comprenait même pas que vous veniez demander un emploi vêtu comme vous étiez, avec la taille que vous aviez, avec le langage que vous aviez, avec les études que vous aviez. Nous grossissons. Mais voici que quelques jours plus tard, vous vous dites, il me faut un emploi. Est-ce que vous irez de gaieté de cœur? Si vous êtes au point zéro, devant ce que cet être vous a dit, quelque part vous n'êtes pas touché et vous irez de gaieté de cœur, vous cherchez un emploi. Mais si vous n'êtes pas libéré dans le corps émotionnel et que vous gardez cette mémoire du passé, vous vous dites, mais si je me présente devant un employeur, il me dira que je suis nul, il me dira que je ne vaux rien, et alors vous vous arrêterez et vous vous empêcherez d'avancer. Parce que quelque part, vous avez gardé dans cet espace linéaire une mémoire qui vous empêche aujourd'hui de vous accepter et de vous vivre dans un présent actuel qui est toujours neuf. Il en est de même pour le futur. Si vous dites, oui, mais dans 5 ans, tout à coup je perds mon emploi, tout à coup je n'ai pas d'argent, tout à coup mon conjoint me laisse, tout à coup, et là vous vous créez de l'angoisse du futur. Vous êtes dans le temps linéaire et ce passé et ce futur viennent nourrir le monde de la dualité. Mais si quelque part vous savez que dans le présent qui habite le « je suis », tout le futur est contenu et tout le passé est contenu, et que lorsque vous aurez éveillé ces mémoires en unifiant vos polarités à l'intérieur de vous, quelque part vous connaîtrez tout ce passé et vous connaîtrez tout ce futur, mais installé dans le point zéro, c'est-à-dire sans être touché par les vibrations, ni sans être atteint dans votre corps émotionnel, mental ou physique. Alors, à ce moment-là, être libéré.
Alors, parfois, il m'arrive de me sentir divisé entre m'abandonner, lâcher prise, laisser être ce qui doit être, et mettre mes énergies en action, persévérer vers mon but. Comment harmoniser à l'intérieur de moi l'abandon et l'action?
Alors, nous vous dirons, l'abandon et l'action sont deux oppositions apparentes qui ne cherchent qu'une seule chose, à être unifiées pour vous permettre de vous propulser. Un jour, Jésus était apparu à une femme appelée Marguerite Marie. Il s'était présenté sous la statue du Sacré-Cœur et il lui avait dit, fais comme si tout dépendait de toi, mais sache que tout dépend de moi. Alors, quelque part, il lui demandait l'action, et d'autre part, il lui demandait l'abandon. Dans ces deux mouvements unifiés, cette femme a été capable d'atteindre des états mystiques incomparables. Il en est de même pour vous. Être mystique ne veut pas dire être en contemplation tout le jour, mais être mystique veut dire être unifié de l'intérieur. Alors, sachez que cet abandon ne veut pas dire la paresse, ne veut pas dire l'ignorance de l'action. Il veut dire quelque part une grande confiance en la vie. Et d'autre part, l'action, c'est comme si c'est le mouvement qui permet à cette vibration de pouvoir entrer dans le mouvement créateur. Alors, que ces deux mouvements n'en fassent qu'un à l'intérieur de vous, et vous ne serez plus dans la dualité, vous serez unifié.
Je confronte mes ennemis et mes peurs à chaque semaine pour les vaincre. Et je suis rendu au détachement. Et j'aime mes difficultés car je suis capable de les battre. Parlez-moi du détachement par la confrontation.
C'est un moyen, la confrontation. Nous vous dirons, il y a des formes de confrontation différentes. Si la confrontation que vous avez est une confrontation d'amour, rien ne peut résister. Mais si votre confrontation est une confrontation de guerre, et nous vous dirons d'une forme de guerre que vous vous faites à vous-même, nous vous dirons, cette guerre pourrait sous-entendre une forme de mépris. Mais vous dites que vous êtes bien dans cette guerre. Alors, fort probablement que l'arme que vous tenez, c'est l'arme de l'amour. Aimez le détachement. Parce que le détachement, non seulement il vous donne la liberté, car la liberté, c'est un mot bafoué. C'est un mot qui a nourri autant l'ego et l'égoïsme, nous vous dirons, qu'il a servi à des grandes causes. Cherchez plutôt la libération. Alors, sachez bien que vous détachez cette entrée dans le monde de la libération. Et cette libération, ce qu'elle fera, c'est qu'elle vous ramènera au-dedans de vous. Et que là, elle vous révélera votre grandeur, votre puissance, votre capacité infinie de devenir le « je suis » du « je suis ». Alors, le détachement, c'est le lieu de la libération absolue. Si vous n'êtes plus attaché à rien, vous pourrez tout avoir. Mais dès que vous vous attachez, quelque part, vous vous frustrez, vous vous empêchez d'évoluer, vous vous empêchez d'avancer.
Un petit détour, on mentionne en dehors du sujet, mais qui peut très bien s'apparenter aussi. Marie apparaît-elle réellement en Croatie? Que pensez-vous des apparitions et des messages livrés? Merci.
Nous vous dirons que oui, elle apparaît là, mais elle apparaît ailleurs aussi. Alors, nous vous dirons que les messages qu'elle donne sont des messages qui sont reçus par des personnes qui sont des canaux. Et lorsque quelqu'un est un canal, il reçoit avec sa propre vibration et il transmet une partie de sa vibration ou de sa propre connaissance. Alors, sachez bien que les enfants qui reçoivent sont des enfants qui sont dans un grand état de pureté. Lorsque nous disons « enfant », nous ne parlons pas d'âge, nous parlons de conscience d'âme. Lorsque Jésus disait « si vous redevenez comme des enfants, vous retrouverez le royaume », alors ce sont des enfants qui reçoivent ces vibrations et qui les transmettent quelque part, non seulement par le fait de la parole, mais qui les transmettent surtout par la transformation qu'ils opèrent à l'intérieur.
J'ai deux jeunes filles. Comment puis-je savoir quand je dois intervenir ou laisser agir leur karma, les laisser souffrir ou partager mon expérience?
Nous vous dirons, si avec elles vous partagez votre expérience sans leur indiquer le chemin qu'elles ont à prendre, mais en les laissant libres à partir de ce que vous leur avez dit de vous-même, de faire des choix, quelque part, vous les autorisez à expérimenter même la souffrance. Si vous arrivez à vous détacher, vous ne verrez pas la souffrance comme la souffrance, mais vous verrez la souffrance comme une énergie qui interpelle une autre énergie, une énergie qui est davantage la paix et la sérénité. Alors vous accepterez qu'elle puisse vivre une polarité pour un jour comprendre qu'elles sont interpellées par l'autre. Mais souvent, il vous arrive de comprendre uniquement lorsque vous arrivez à la limite. Est-ce que vous n'avez pas vécu, chacun d'entre vous, des circonstances où vous êtes allé jusqu'au bout de vous-même et à un moment donné, vous avez dit « Non, je ne veux plus vivre cela. » Vous vous êtes tourné, vous avez changé de situation. Que s'est-il produit? Alors vous avez eu l'impression d'un grand moment de paix et de sérénité. Vous avez eu l'impression de vous retrouver vous-même pour ensuite vous replacer dans une autre situation qui vous conduirait plus loin et peut-être encore à nouveau jusqu'à l'exaspération, jusqu'à ce que vous ayez compris que ce qui vous interpelle vers la droite est toujours ce qui veut être en contact avec ce qui est à gauche. Alors, si vous vivez la douleur et la souffrance, comme vous parlez de ces jeunes filles, quelque part, c'est parce qu'elles sont déjà interpellées par une autre énergie. Mais vous ne vous trompez pas lorsque l'amour procède.
Je suis très... Pardon, j'essaie de lire. Voilà. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Il y a 2 mois et demi que je souffre de zona dans le visage. Je me sens en survie, accrochée à l'idée de la guérison. J'aimerais être plus en contact avec mon âme et mes aspirations. Merci de votre aide. Et c'est signé Louise.
Alors, Louise, nous allons vous dire que le zona, c'est une maladie de peau. Une maladie de peau, c'est une maladie liée à une émotion. La maladie du zona est liée à une émotion de feu. Une émotion de feu, c'est-à-dire qui veut vous faire traverser la porte de feu. Elle veut probablement vous permettre de passer à travers un détachement très important. Il y a possibilité de pouvoir vous libérer de cette maladie, pas, nous dirons, nécessairement par des médicaments, puisque la médecine n'a pas encore saisi, nous dirons, cette forme de feu qui se forme dans l'être lorsque l'être cherche à être libéré. Mais seulement si vous pouvez aller en consultation auprès de personnes qui auraient la capacité de vous accompagner pour que vous puissiez trouver la source et l'origine de cette émotion bloquée, alors en débloquant l'émotion, vous pourriez libérer ce feu. Sachez bien que ce n'est pas par hasard que cela se produit au visage. Sachez bien que le visage parfois se masque pour ne pas se montrer dans sa réalité. Peut-être aurez-vous des masques à enlever pour être capable d'accéder à cette libération. Lorsque vous dites « je m'accroche de façon désespérée à la guérison », sachez que oui, vous avez le pouvoir de guérir. Mais à quoi vous servirait-il de guérir temporairement de quelque chose que vous n'auriez pas guéri dans l'âme, c'est-à-dire dans le corps émotionnel? Alors faites ces démarches. Il y a des personnes qui sont même dans cette salle ici ce soir qui ont cette capacité de pouvoir arriver à décoder, nous dirons, ces formes émotionnelles.
Que pouvez-vous dire par rapport au corps physique qui très souvent est taxé par rapport à la dualité, par rapport à tout ce qu'il peut avoir comme réaction? C'est comme s'il transmet une forme de dualité en nous donnant l'impression de nous retarder dans notre mouvement.
Le corps physique est un véhicule magique. C'est un véhicule qui parle et que vous ne pouvez pas ne pas entendre. Lorsque votre âme supérieure vous parle, vous pouvez faire la sourde oreille, vous pouvez faire semblant que vous n'avez pas compris, vous pouvez détourner, vous pouvez jouer, vous pouvez rester cramponné et attaché dans des situations, vous pouvez nourrir votre corps émotionnel, vous pouvez nourrir votre ego et votre orgueil. Mais lorsque le corps physique parle, vous ne pouvez pas ne pas entendre. Si vous avez une douleur à un pied ou à un genou ou du zona ou une douleur à l'estomac, peu importe, là vous devez vous asseoir et écouter. Et sachez bien que si les êtres humains savaient écouter leur corps physique, ils comprendraient ce qu'est leur corps émotionnel et ils pourraient se libérer des tensions que l'ego crée entre le corps physique et le corps émotionnel. Et alors vous pourriez être dans un état de santé perpétuel, non seulement dans le corps physique, mais aussi dans vos autres corps. Alors écoutez votre corps physique, écoutez-le, ne cessez pas de l'écouter. Surtout, n'allez pas utiliser des tonnes de médicaments pour faire taire la douleur et la souffrance afin de ne pas pouvoir entendre. Vous pouvez parfois avoir besoin de ces béquilles ou de ces substituts pendant que vous êtes en train de faire la démarche de libération. Mais faites d'abord la démarche de libération du corps émotionnel si vous voulez libérer le corps physique de toute contrainte et de toute dualité.
Y a-t-il vraiment une dualité entre le corps mental et le corps émotionnel?
Exactement. Nous vous dirons, le corps émotionnel voudrait bien être le plus puissant. Et le corps mental voudrait bien être le plus puissant. Vous savez, au début, dans le commentaire d'ouverture, nous avons parlé de dualité. D'un côté, nous avons parlé de la négation. Très souvent, nous dirons presque 75% du temps, le corps émotionnel est lié à la négation. Alors que d'autre part, le corps mental est lié au corps du désir, c'est-à-dire désir de pouvoir, désir d'exercer l'autorité, désir, nous dirons, toutes les formes de désir de pouvoir. Alors quelque part, le pouvoir est lié au mental. Et ceci crée une dualité. C'est pourquoi il y a souvent une tension entre l'émotion et le mental. Vous avez une peine et le mental vous dit « ne pleure pas en public, ça ne se fait pas ». Vous avez une douleur au-dedans de vous, vous vous sentez coincé, mais vous vous taisez et vous niez cette douleur et vous niez d'être coincé parce que quelque part, votre mental vous dit « ne parle surtout pas devant cette personne ». Elle pourrait te juger. Et alors, ceci crée une dualité.
J'ai besoin d'un travail, et souvent c'est avec des malades. C'est très difficile et même frustrant. Comment arriver tout en accueillant? S'il vous plaît, j'ai besoin que vous m'aidiez.
Nous vous dirons d'abord dans un premier temps. Lorsque vous vous présentez devant ces malades, est-ce que votre premier regard est de voir dans le visage de ces personnes le visage du Christ? Sinon, commencez par ça. Alors vous ne les verrez plus de la même façon. Et tout leur verbiage, leurs plaintes justifiées ou injustifiées, ne vous apparaîtront plus de la même façon. Vous comprendrez que derrière le mur de leur jeu, derrière le mur de leur souffrance, derrière le mur de leur émotion, il y a Christ qui veut se révéler. Alors vous approcherez d'eux en vous disant, si quelque part j'arrive à accueillir ces personnes, j'arrive à les prendre telles qu'elles sont dans le présent, j'arriverai à me révéler le Christ qui est en moi. Parce que le Christ qui est en vous est aussi masqué parfois par la douleur, par l'impatience, par la souffrance, par toutes les formes émotionnelles. Alors ces personnes qui sont devant vous viennent uniquement vous montrer les masques que vous portez et qui vous cachent le Christ en vous. Le Christ, cependant, ne juge pas les personnes malades. Il ne juge pas leur mécontentement. Il ne juge pas non plus leur impatience. Il ne juge pas leur peine ou leur douleur. Quelque part, il les reçoit dans ce qu'ils sont, dans le moment présent, en sachant que lorsqu'ils auront évolué davantage dans la conscience, non seulement leur propre conscience individuelle, mais aussi dans la conscience collective, ils n'auront plus besoin de ces masques de douleur et de souffrance. Alors, voyez-les derrière leur masque, voyez le Christ en eux.
Peux-vous offrir un peu de lumière liquide?
Ceci serait bien appréciable.
Alors, la prochaine question. Vous avez déjà parlé de nous libérer de notre corps émotionnel pour que le corps de lumière puisse prendre place. Est-ce qu'en emmenant toutes nos émotions dans notre cœur, que nous nous libérions, que nous nous libérons, pardon, du corps émotionnel? Libérerons, voilà, du corps émotionnel. Se libère-t-on complètement du corps émotionnel? C'est la question.
Alors, nous vous dirons que le corps émotionnel est une vibration très puissante. Et lorsque cette vibration est purifiée des scories d'anciennes émotions, c'est-à-dire d'émotions qui sont générées par la peur du passé, que vous parliez de la peur ou que vous parliez de la peine ou que vous parliez de la douleur ou que vous parliez de n'importe quelle émotion, observez bien, ceci n'est pas par rapport à ce que vous êtes en train d'aspirer, à votre aspiration à la lumière. Ceci est dû à des événements, à des personnes que vous croisez, qui vous rappellent des événements du passé. Et alors, c'est ça le méli-mélo. Mais le corps émotionnel, quelque part, lorsqu'il sera complètement libéré, il va épouser, il va se fondre, il va devenir un avec votre double éthérique. Et à ce moment-là, le corps de lumière aura plus de facilité à s'implanter parce que le corps émotionnel ne sera plus dense, parce qu'il y a des émotions denses et des émotions subtiles. Les émotions subtiles sont devenues des états. Il y a des êtres, par exemple, il y en a même parmi vous, qui vivaient à certains moments des états de paix ou des états de sérénité. Vous êtes alors dans le point neutre. Vous n'avez pas de ressentiment pour le passé, ni d'attente pour le futur, ni d'attache dans le présent. Vous vivez ce qui est là, dans le moment, dans la minute près. Alors, à ce moment-là, vous avez atteint dans votre corps émotionnel un état. Alors, le corps émotionnel, il ne doit pas disparaître. Le corps mental ne doit pas disparaître. L'ego ne doit pas disparaître. Et nous vous dirons, il n'y a que le corps physique qui risque de disparaître, mais qui pourrait aussi rester et être transcendé si vous développez cette énergie d'ascension. Et pour la développer, il faut être capable de créer cette énergie d'unité. Ce n'est pas si difficile. Au début de cette séance, André vous a parlé de l'inspire et de l'expire. Alors, si chacune de vos polarités était inspire et expire qui s'interpellent, au lieu d'être dualité qui se contrarie, est-ce que ceci ne serait pas magnifique? Et ceci établirait en vous cet état de paix. Et cet état de paix et de sérénité, c'est le lieu de l'implantation de cette énergie christique qui vous amène vers les plans d'ascension.
Vous avez parlé tantôt de Cryon et de son implant neutre. Est-ce qu'il y a des risques à le demander?
Nous vous dirons, passez toujours par votre âme supérieure. Elle sait où vous êtes rendu, elle sait ce que vous avez à transcender, elle sait ce que vous avez à demander. Si chaque jour, vous dites à votre âme supérieure, « Je te demande de me faire vivre aujourd'hui tout ce qui est le meilleur pour moi, que ce soit une extase, que ce soit un duel, que ce soit un spectacle que j'aurais préféré ne pas voir. Peu importe, je te demande à toi, parce que toi tu es dans cette conscience transcendée, de me donner ce qui est le meilleur pour moi. Et alors, si l'implant neutre, ainsi que vous le dites, est le meilleur pour vous, il s'installera en vous. Mais sachez bien qui ne vient pas d'ailleurs. Cet implant, il vient de vous-même. Il vient de votre propre conscience supérieure. Alors, si vous êtes en contact avec elle, vous ne pouvez pas vous tromper de voix. Nous devrons bientôt quitter la forme.
Alors, peut-on arriver à l'unité dans cette dimension? Si oui, par quel moyen?
Par l'unification de vos polarités, et sachez bien que le travail que vous faites individuellement doit tenir compte aussi de la grande conscience collective, car vous ne travaillez pas uniquement pour vous. Rappelez-vous cette parole d'Évangile de l'ouvrier de la 11e heure, qui avait reçu le même salaire que celui qui avait commencé très tôt le matin. Et certains d'entre eux s'étaient impatientés et avaient dit au maître, « Ce n'est pas juste, nous avons travaillé toute la journée et nous sommes payés le même salaire que ceux qui sont arrivés à la 11e heure. » Alors sachez bien que ceux qui avaient travaillé toute la journée n'avaient pas travaillé uniquement pour eux-mêmes, mais ils avaient travaillé pour la collectivité tout entière. Et le salaire était égal pour chacun, parce que, quelque part, l'amour ne fait pas de différence. Et lorsque la conscience collective est prête pour un bond ou un saut quantique, quelque part, les choses s'accomplissent d'elles-mêmes. Alors sachez bien qu'en unissant les polarités à l'intérieur de vous, en sachant que vous le faites pour vous-même et pour la collectivité tout entière, sachez que vous préparez déjà ce mouvement ascensionnel à l'intérieur de vous. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir une énergie moins dense qu'il y a 10 ans? Bien sûr. Non seulement individuellement, mais collectivement aussi. Nous prendrons une dernière question s'il y en a, André.
Je vais la lire comme je la reçois, plutôt comme je la ressens, oui. Ça fait 8 ans que j'ai un mal de pied. Est-ce que ceci est relié à une dualité? Pouvez-vous m'aider, s'il vous plaît?
Nous vous dirons sûrement. Parce que les dualités, ce sont des vibrations. Nous vous dirons des vibrations qui créent des nœuds dans l'énergie lorsqu'elles ne sont pas libérées. Mais sachez bien que si votre pied, c'est-à-dire que si la matière osseuse dans votre pied est douloureuse ou cristallisée depuis 8 ans, c'est que vous portez un fardeau qui est trop lourd pour vous, qui vous empêche d'avancer et peut-être depuis plusieurs vies. Il serait important que vous puissiez consulter pour être capable d'arriver à comprendre, nous dirons, où est-ce que vous mettez un blocage qui vous empêche d'avancer et quel est le bénéfice marginal que vous tirez, nous dirons, de cet handicap. Alors, cet handicap a des choses tellement importantes à vous dire et davantage lorsque c'est cristallisé dans la nature osseuse parce que le système osseux est le lieu où les vibrations sont cristallisées le plus dur. Si vous êtes rendu à travailler dans votre système osseux, dites-vous bien que vous libérez des choses qui sont très puissantes et qui viennent de très loin. Nous vous suggérons de pouvoir consulter quelqu'un qui vous permettrait de retrouver la racine de cette douleur afin que progressivement vous puissiez par votre propre énergie arriver à ce plan de guérison. Sachez que de plus, le système respiratoire, lorsqu'il est bien exploité chez l'être humain, et que si vous arrivez progressivement à visualiser que vous pouvez respirer par le sommet de votre tête afin d'aller chercher le prana est le médicament des médicaments, il ne coûte rien, il est là, il suffit d'aller le chercher et il a le pouvoir. Une fois que vous avez la conscience, nous dirons, du nœud que vous débloquez, il a le pouvoir de créer toutes les guérisons.
Je m'excuse, j'ai besoin de vous poser une autre question qui est, quel est le point neutre entre les polarités homme et femme?
Nous dirons l'énergie androgyne, mais même là, nous vous dirons l'énergie androgyne peut se vivre sur le plan terrestre et se vit aussi dans d'autres plans. Nous vous dirons que les anges, par exemple, sont des êtres androgynes, c'est-à-dire qu'ils possèdent à l'intérieur d'eux à la fois l'énergie féminine et masculine. Mais nous vous dirons dans des plans plus élevés de conscience, parce que les anges ne sont pas les êtres les plus élevés dans la conscience. Il y a des êtres beaucoup plus élevés dans la hiérarchie. Et au sommet de la hiérarchie, nous vous dirons, il n'y a plus de division féminine et masculine, comme si cette énergie n'existait pas.
C'était simplement dans le but de nous soutenir et nous aider à traverser cette grande dualité qui est encore très omniprésente ici sur le plan.
Et nous vous dirons, vous n'avez pas à juger cette dualité, mais quelque part à la reconnaître. Nous avons dit que lorsque vous unifiez vos polarités, vous développez en vous le discernement et vous développez la mémoire. Lorsque cette mémoire va commencer à se révéler à l'intérieur de vous, vous allez sentir la complétude de votre être. Vous allez sentir que vous êtes total par vous-même. Ceci ne vous empêchera pas d'avoir des contacts amicaux et des contacts de service avec vos frères. Mais quelque part, vous ne serez plus ni dans l'énergie du désir, ni dans l'énergie de la négation. Alors, si vous comprenez bien ceci, tout l'enseignement que nous avons donné ce soir, sachez que chaque fois que vous unissez en vous l'homme et la femme, quelque part, vous créez déjà cette énergie androgyne. Et si vous avez besoin d'aide, interpellez les êtres qui habitent sur la planète Orion. Ils peuvent de beaucoup vous aider à ce niveau.
Merci beaucoup.
Bienvenue.
Vous avez un dernier commentaire?
Avant de vous quitter, nous voulons vous dire quelque part, remerciez-vous d'être venu sur le plan terrestre. Remerciez-vous d'être venu dans cette grande université qui vous fait vivre les plans les plus dualisés pour être capable ensuite, lorsque vous aurez lorsque vous aurez transcendé cette énergie, de pouvoir devenir des êtres de service pur, non seulement sur la planète Terre, puisque la planète Terre verra elle aussi son plan de transmutation, mais aussi dans beaucoup de plans cosmiques où vous pourrez aller enseigner, puisque vous aurez eu le brevet de l'université d'Ariane. Alors nous voulons vous dire aussi, avant de vous quitter, que nous vous aimons et que nous vous voyons dans vos batailles dualisées. Mais ne vous découragez pas, vient le temps où la lumière sera tellement puissante que vous pourrez transcender en un jour ce qui vous prenait 20 ans à transcender avant. Alors gardez courage, tournez votre regard vers la lumière, sachez que vous êtes déjà cette lumière. Sachez que vous êtes déjà la voie, la vérité et la vie. Sachez que vous êtes déjà l'énergie de résurrection. Nous vous accompagnons dans votre démarche et notre amour est grand pour vous.
Alors nous remercions le chariot blanc pour cette collaboration et ainsi pour ce reflet qui vient nous montrer avec une grande simplicité comment nous avons tous accès à ce grand bassin de la supraconscience.
Bien sûr. Amen.
En suivant le besoin, veuillez, s'il vous plaît, procéder.